Nous allons parler de drogue avec la boussole.
Bonjour, donc c'est la deuxième partie de l'émission avec la boussole qui va nous en dire plus sur les drogues. Si l'on consomme de la drogue douce ou dure, quels sont les risques ?
On n'aborde plus la question des drogues sous l'angle du produit. Donc drogue dure, drogue douce, on fait plus cette distinction-là. On l'aborde plutôt du côté des types d'usage et des comportements. Ce qui fait qu'effectivement, on parle plutôt d'usage nocif, d'usage abusif, régulier et de dépendance. Les choses est de pas tout centrer sur la question du produit, mais plutôt le rapport entre la personne qui consomme et le produit qu'il consomme, et surtout comment il le consomme. Et ça, donc, ça a été vraiment une avancée importante pour pouvoir aussi changer un petit peu les représentations et un peu les mentalités par rapport à la manière dont on pouvait aborder les personnes qui consomment. Alors quant à savoir quels sont les risques, je dirais qu'ils sont de différents ordres. Hein. On va dire qu'il y a des risques dans le sens où bon, il y a une dépendance qui peut être physique pour certains types de produits. Hein. Donc l'héroïne notamment, hein, évidemment, entraîne une dépendance physique importante qui amène à ce qu'il puisse y avoir de mis en place une cure de sevrage ou un traitement de substitution, puisque sinon la personne se retrouve vraiment en manque physiquement. Hein, alors qu'il y a d'autres drogues qui n'entraînent pas forcément de dépendance physique, en tout cas pas de manière aussi criante et douloureuse que peut entraîner l'héroïne ou l'alcool, évidemment. Cette appellation d'usage, etc. est intéressante. Maintenant, c'est vraiment ces fonctions de la façon dont la personne consomme et pas seulement de la quantité. De comment, de quand, depuis combien de temps. Enfin, voilà, on prend tous ces paramètres-là en compte pour pouvoir essayer d'évaluer ou de mesurer la façon dont la personne peut prendre des risques par rapport à la consommation. C'est aussi que le temps de l'adolescence, c'est le temps aussi des expériences et que le fait même de vivre de nouvelles expériences comporte des risques. Maintenant, c'est aussi la manière dont cette question du risque, la personne, enfin le jeune ou la jeune, va être en mesure de pouvoir gérer son rapport à son expérience, son rapport au risque. Hein. Donc, vous voyez bien que le risque, il n'est pas seulement lié aux consommations, le risque, il est aussi dans la vie de tous les jours. Hein. Maintenant, c'est effectivement de voir comment la personne se situe par rapport aux expériences qu'elle peut mener, et je pense qu'on peut du coup aborder cette question du risque au niveau de l'addiction plutôt de cette façon-là. Hein. C'est-à-dire que c'est d'abord de voir un peu la personne, comment elle va se saisir hein, de la façon dont elle consomme, qu'est-ce qu'elle va en faire. Hein. Et qu'on voit bien que tout le monde ne consomme pas de la même manière et qu'un adolescent qui va consommer autant de joints qu'un autre n'est pas forcément pour autant en même situation de risque qu'un autre.
Oui, pour compléter ce que vient de dire Cassandre, peut-être ajouter également que le contexte de consommation est aussi important. Bien évidemment que consommer en groupe n'a pas la même signification que consommer en solitaire. Je crois que c'était aussi important de le signifier.
Lorsque l'on est accro, quels sont les traitements possibles pour se désintoxiquer quand on est accro à l'héroïne ou à la cocaïne ?
Alors, être accro, c'est effectivement ce que je disais plutôt tout à l'heure, c'est-à-dire quand il y a une dépendance physique. Hein, donc, effectivement, l'héroïne peut amener une dépendance physique. Les différents types de traitements, alors ils ont évolué au cours de ces 10 dernières années, on va dire, puisque il y a un peu plus de 10 ans, il n'y avait pas de produit de traitement de substitution, c'est-à-dire que la personne, quand elle souhaitait se dégager de sa dépendance à l'héroïne, n'avait pas tellement d'autre choix que de faire une cure de sevrage en milieu hospitalier. Hein, donc, ce qu'on appelle une cure de sevrage, c'est effectivement pour pouvoir ne plus être dépendant physiquement de l'héroïne. Hein, donc, c'était vraiment là nécessaire que ça se passe en milieu hospitalier avec un traitement qu'on va dire qui est un peu un traitement symptomatique de la douleur, où on essayait par rapport aux différents symptômes générés par le manque de répondre à ces symptômes-là pour tenter de minimiser les douleurs. Hein, donc ça serait en général à peu près une semaine. Cet outil thérapeutique existe toujours et a toujours évidemment son sens, sa pertinence, mais au niveau du panel thérapeutique, il y a eu d'autres types d'outils, d'autres moyens tels que les traitements de substitution qui ont vu le jour en 92 pour le Subutex, et puis après ça dépend pour la méthadone, ça dépend des régions, mais on va dire ça a été dans la foulée, donc entre 93-94. Donc là, les traitements de substitution, comme leur nom l'indique, sont des traitements qui permettent à la personne de ne plus être en manque. Donc ils viennent se substituer au produit, enfin à la drogue, c'est-à-dire à l'héroïne, hein, mais où il n'y a plus les symptômes de manque. Donc voilà, ça c'est les moyens, je dirais, les plus immédiats quand il y a une démarche de soins qui est faite par la personne pour se dégager de la dépendance physique. Ensuite, bien évidemment, ces deux moyens-là ne sont pas des fins en soi, qu'au-delà de gérer, on va dire, cette question du manque et la dépendance physique, bien évidemment que dans le parcours de la personne, il est aussi important qu'il puisse y avoir d'autres types d'accompagnement et de soutien, social, éducatif et psychologique. Hein, parce qu'il y a la question du manque et vraiment du rapport au produit, mais il y a aussi les effets et les conséquences que ça a pu avoir dans la vie de la personne, hein, donc que ce soit sur le plan professionnel, familial, affectif, personnel. Il y a effectivement beaucoup de choses à reconstruire ou à réaménager autrement dans sa vie. Aussi le rapport au temps, où quand on passe son temps à consommer toute la journée d'un seul coup, de ne plus se retrouver avec le même rapport au temps. Et puis également dans tous les domaines de la vie, hein, quand la drogue a pris toute cette place dans la vie et que d'un seul coup elle prend plus cette place là, effectivement il y a tout un tas de choses à réaménager autrement. Donc je pense que au-delà de la dépendance physique, je crois que c'est vraiment tout à fait important, et au-delà des traitements, hein, de savoir qu'effectivement dans ce qu'on propose comme aide auprès de ces personnes, ça va vraiment être une prise en charge qui est aussi située dans l'écoute, dans le soin psychologique et dans l'accompagnement éducatif. Et c'est toutes ces propositions thérapeutiques-là qui permettent d'aider les personnes à se dégager de cette dépendance. La cocaïne, quant à elle, n'amène pas de dépendance physique majeure. C'est par contre, effectivement, ça peut amener des désordres et des dysfonctionnements, puisque bon, la cocaïne, un des effets principaux, c'est d'être plutôt fort stimulant, hein, donc la personne ne va pas ressentir la fatigue, etc. Donc il peut y avoir une forte dépendance psychologique, hein, puisqu'effectivement la personne d'un seul coup se sent tout le temps en forme, pas de fatigue, etc. Donc ça peut amener une dépendance plutôt qui accroche de ce côté-là. Par rapport à d'autres types de substances psychoactives qui n'amènent pas de dépendance physique majeure, on peut citer évidemment le cannabis, et c'est quand même la majorité des jeunes que nous on reçoit à la consulte. Mais quand on dit dépendance psychologique, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est pour différencier la dépendance physique et la dépendance psychologique, hein, mais il faut savoir qu'effectivement la dépendance psychologique avec le cannabis, mais la dépendance tout court, on va dire, peut amener des problèmes aussi et des troubles importants pour la personne, hein, et c'est pas parce qu'on dit dépendance psychologique que ce serait moindre par rapport à la dépendance physique. C'est pas le même type de dépendance, hein, et évidemment ça a quand même pas tout à fait les mêmes conséquences aussi socialement, parce que avec le cannabis, même si on peut dire qu'il y a des symptômes où les personnes sont un peu moins, ce qu'on appelle le symptôme amotivationnel, où les personnes sont un peu moins motivées, ont moins envie de se lever le matin, etc., ça n'a pas tout à fait les mêmes conséquences que quand on consomme de l'héroïne et qu'on ne peut pas se lever et qu'on ne peut pas les travailler si on n'a pas sa dose parce qu'on est en manque. Vous voyez, voilà, c'est quand même, on voit bien qu'on ça situe les choses quand même tout à fait dans la réalité autrement. Maintenant, évidemment, il peut y avoir des effets psychologiques et puis des effets aussi dans la manière de se construire son avenir quand on est jeune, qui peuvent être tout à fait préoccupants et problématiques pour les jeunes qui consomment de façon très régulière le cannabis. Parce que s'il faut savoir aussi, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est l'usage et la manière dont le jeune va consommer qui est vraiment tout à fait importante. Hein. Entre un jeune qui consomme un joint de temps en temps, qui en fait l'expérience et qui arrive à gérer ses différents espaces, et quand il est au lycée, il est au lycée, quand il est et qu'il arrive à maintenir ses investissements, ses pôles d'intérêt, on peut se dire que là, il n'est pas trop en situation de risque ou de danger. Par contre, quand effectivement le cannabis vient prendre une place très importante dans sa vie et que tous ses investissements, il les laisse un peu tomber, etc., là, on voit bien que c'est le même produit, hein, donc c'est le cannabis, mais on voit bien que l'usage qui en est fait ne va pas être le même. Donc c'est surtout nous à ça qu'on s'intéresse, c'est au jeune lui-même et la manière dont il consomme, quel sens et quelle place ça vient remplir dans sa vie.
Y a-t-il de plus en plus de jeunes qui se droguent ?
Alors, de plus en plus de jeunes qui consomment du cannabis, oui. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que les jeunes commencent de plus en plus tôt, de plus en plus fort et de plus en plus vite. Et ça, je vous renvoie plus à aussi à toutes les études qui ont été faites par l'INSERM et les expertises, expertise INSERM, et ça, on peut le voir sur le site de l'OFDT ou de la MILT, il y a forcément des références à ça. Mais voilà, globalement, on peut dire effectivement, oui, c'est ça. Plus vite, plus tôt et plus fort. En 10 ans, il y a eu une augmentation importante chez les jeunes. Donc par rapport au cannabis, mais aussi par rapport à l'alcool.
Si l'on prend une fois du cannabis, peut-on devenir accro ?
Alors, comme on le disait tout à l'heure, accro, on ne devient pas accro du cannabis. Il n'y a pas de dépendance, encore une fois, physique majeure. Par contre, effectivement, le cannabis peut accrocher. C'est-à-dire que le jeune qui en est fait une première expérience ait envie de renouveler l'expérience, parce que ce dont on n'a pas encore parlé, c'est aussi cette notion de plaisir, et qui fait que s'il y a aussi des consommateurs de drogue, c'est parce que la drogue, au départ, ce qu'ils nous en disent, c'est que c'est bon. Et que ça amène une forme de bien-être. Alors, il parle beaucoup par rapport au cannabis, de bien-être, de détente, de plus penser à rien. Enfin, en tout cas, voilà, ça a ses effets comme ça dans les premières fois. Donc, il peut y avoir l'envie d'y revenir pour retrouver le même état que la première fois où on en a pris. Maintenant, on peut aussi dire quand même que tous ceux qui ont fait l'expérience du cannabis ne sont pas devenus des consommateurs réguliers. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, là aussi, il y a, on va dire, un apprentissage du plaisir, un apprentissage aussi de gérer un petit peu tout ce qui peut se passer à l'intérieur de soi, et que c'est pas forcément d'avoir recours à un produit dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ou au contraire, quand on est bien, on a envie de retrouver tout sans arrêt cet état-là. Donc je dirais que c'est vraiment aussi une expérience qui amène aussi à essayer d'apprendre de soi et de savoir un peu comment on gère son rapport à ces différents objets potentiels de dépendance. Mais c'est pas forcément que par rapport aux drogues, c'est aussi par rapport au sexe, par rapport à plein d'autres choses, par rapport à tout ce qui peut en être de toutes les dépendances qu'on a dans la vie, parce que l'être humain est aussi un être de dépendance, quoi. Donc je crois que grandir et devenir adulte, c'est aussi tout cet apprentissage-là. Et que la question du cannabis, quand on est jeune, ça renvoie à toutes ces questions-là. Enfin, en tout cas, ça pose toutes ces questions-là.
La plupart des jeunes qui consomment du cannabis disent que c'est pour se détendre, qu'il y a un effet de bien-être, etc. Mais la plupart des consommateurs de plus ou moins longue date voient d'autres effets, en fait. C'est bien pour se descendre. Bon, après, ça devient une habitude, ça devient un besoin. Mais il y en a beaucoup qui parlent de paranoïa, qui pensent beaucoup, qu'ils ont du mal à s'endormir. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, effectivement, là, c'est tout à fait important d'ajouter la notion du temps. Et quand vous dites qu'ils consomment depuis un petit moment, on voit effectivement que le discours évolue, change au fur et à mesure de l'expérience que fait le jeune de sa consommation et des habitudes qu'il prend avec cette consommation. Et de fait, entre les débuts de l'expérience où effectivement c'est plutôt pour se détendre, pour s'amuser, puis comme le rappelait Nathalie, dans un contexte aussi particulier, et là aussi il faut être vigilant à la manière dont les jeunes consomment, qui consomment plutôt en groupe, etc., quand il y a un passage où ils commencent à consommer seuls, et puis le matin, et puis toute la journée, et puis ça a besoin d'être là dans toutes les espaces de vie qu'ils ont, on voit qu'effectivement, là, c'est en train de muter vers autre chose. Alors, c'est d'abord pas la majorité des jeunes qui consomment, ça c'est quand même important de le rappeler. Ce qu'il faut savoir, juste un tout petit chiffre, c'est quand même que même chez les consommateurs réguliers de cannabis, ce qu'on voit quand même, c'est que la courbe monte et il y a un pic jusqu'à 24 ans, et après 24 ans, la consommation de cannabis chute vraiment de façon très très importante. Donc voilà, le pic de consommation chez les jeunes va jusqu'à 24 ans, et je dirais que naturellement, il s'estompe au fur et à mesure. Donc on peut quand même dire que le cannabis, chez les jeunes, c'est vraiment une approche particulière qui est vraiment liée à la question aussi de l'adolescence et de tout ce temps de vie particulier. Donc je crois que ça, c'est vraiment important de le redire, et que, après 24 ans, ça chute. Par rapport à ce que vous disiez sur la paranoïa, etc., bon, je pense que il y a parano et parano. Quand les jeunes parlent de paranoïa, c'est pas forcément la paranoïa au sens psychiatrique du terme, mais effectivement, ce qui peut être repéré sur le plan de l'expérience, et que nous disent beaucoup de jeunes, c'est qu'ils se sentent plus sensibles le plus susceptible au regard de l'autre. Hein, et on sait aussi qu'à l'adolescence, cette question du regard de l'autre est très très importante, parce que c'est aussi comme ça qu'on se construit, et que toutes ces susceptibilités ou ces sensibilités, elles vont être accrues avec le cannabis.
Nathalie, quelle est la drogue la plus consommée ?
Alors je dirais, les drogues les plus consommées aujourd'hui sont le tabac, bien évidemment, l'alcool, qui sont des drogues licites. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder cet aspect licite et illicite. En tout cas, voilà, le tabac et l'alcool sont des drogues qui sont aujourd'hui largement diffusées auprès de la population. Et puis, bien évidemment, le cannabis, qui aujourd'hui est l'une des premières substances psychoactives qui est consommée chez les jeunes jusqu'à, comme le signalait Cassandre, jusqu'à 24 ans.
Je vous remercie d'avoir assisté à notre émission et à bientôt.
Merci à vous.
Merci.
C'est la fin de l'émission Avec la boussole.